Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Mercredi sort en salle un objet cinématographique inédit et fascinant, tourné au plus près de l'un des cinéastes français qui figure au panthéon du cinéma et pourtant parfois mal aimé et incompris. Claude Lelouch. Ce road movie, baptisé « Tourner pour vivre » et signé Philippe Azoulay, nous entraîne jusqu'au bout du monde pour comprendre les processus de création, les quêtes, les défis et les mystères de Claude Lelouch. Le tournage devait durer 3 ans, il a duré 7 ans. Et le miroir a tout capté. Le film du film est né. « Tourner pour vivre » est en salle mercredi et ce qui est absolument épatant, c'est que Claude Lelouch et Philippe Azoulay sont mes invités. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Claude Lelouch, vous dites d'ailleurs dans ce film, je ne vais pas dire documentaire parce que c'est beaucoup plus qu'un documentaire, vous dites dans Tourner pour vivre, moi je ne suis pas un metteur en scène, je suis un metteur en vie. La vie s'invente au fur et à mesure, exactement comme mes films. D'ailleurs, la fin d'un film, ça n'existe pas. Avant, il y a la vie. Après, la vie continue.
Bien sûr, bien sûr. Et j'ai découvert ça très, très jeune parce que ce que j'aime filmer, c'est l'humeur des gens. Et l'humeur, elle change d'une seconde à l'autre. C'est vrai que lorsqu'on va voir quelqu'un qui a de bonne humeur ou de mauvaise humeur, ça change tout. Surtout en fonction de ce qu'on va peut-être lui demander. Et les acteurs, c'est pareil. Ils arrivent le matin sur le tournage avec leur valise. Il y a des jours, ils sont de bonne humeur. Des jours, ils sont de mauvaise humeur. Et il n'y a rien de plus photogénique que la bonne humeur et la mauvaise humeur, si on s'en sert. Voilà. Donc, tous les matins, quand mes acteurs arrivent, d'abord, ils ne connaissent pas vraiment la fin du film. Je n'ai pas envie qu'ils la connaissent. Moi, je ne connais pas la date de ma mort. Je n'ai pas lu le scénario de ma vie. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à maintenant, là, devant ce micro. Oui. Mais ce qui va se passer dans une heure, dans le scénario, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas quand je vais quitter ce studio, ce qui va se passer.
Exactement, comme dans la vie.
Voilà, et donc je procède avec mes comédiens de la même façon. C'est pour ça que je tourne les films en continuité. Et que de minute en minute, on est obligé de changer les dialogues, le scénario, parce que la vie intervient dans la vie de chacun d'entre nous et modifie complètement notre parcours. À chaque fois qu'on dit oui ou non, on ne va pas au même endroit.
Bien sûr, il y a mille
paramètres. Chaque oui et chaque non change les secondes qui vont venir.
D'ailleurs, donc, Claude Lelouch, avant au cinéma, il y avait le mot « fin » sur l'écran. Le mot « fin » a complètement disparu. C'est pour vous donner raison.
Mais tout à fait. Par exemple, nous, le genre humain, on est arrivés tous dans un film qui avait commencé bien avant nous. Et on sera obligé de se barrer avant la fin. Donc si on ne profite pas des séquences qu'on nous propose, on passe à côté du bonheur. C'est pour ça que le présent est la seule chose qui nous appartienne. C'est la seule chose qui n'a pas le temps de vieillir et c'est ce que j'essaye d'expliquer dans chacun de mes films.
Vous dites aussi, dans Tourner pour vivre, le chaos est l'inventeur de tout. Il faut saluer l'incroyable fertilité du chaos.
Oui, oui, parce que toutes les grandes misères du monde ont fabriqué les grandes inventions du monde. Je veux dire que les grands changements sont arrivés derrière des moments de grande crise. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, d'abord, je l'ai d'abord raté. Je veux dire, l'échec est la plus grande école de la vie. Je veux dire que ce n'est pas avec de l'argent qu'on paye, c'est avec de la souffrance. Et tout ce qui m'a fait du mal, un jour m'a fait du bien. J'ai envie de dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour notre bien, même si sur le moment, ça fait très très mal. Mais nous, on n'est pas assez malins pour comprendre la force du mal. Et c'est vrai que la force du mal nous oblige à prendre des revanches, nous permet d'analyser nos échecs. Le succès nous rend con.
Philippe Azoulay confirme avec un large sourire. Alors justement, dans son film qui est en salle mercredi, Tourné pour vivre, Claude Lelouch, on découvre pas mal de vos clés. Par exemple, comme vous avez compris très tôt qu'il fallait savoir tirer profit des hasards qui nous bousculent, vous êtes un cinéaste adaptable, toujours aux aguets, qui réécrit très souvent ses scénarios pendant qu'il les tourne. Et vous dites avec coquetterie que ça a fait de vous un cinéaste amateur à qui les professionnels ont souvent fait la gueule. C'est parce que vous filmez autrement et en dehors de leur code que vous n'avez en fait jamais été, par exemple, nommé au César alors que vous avez eu 2 Oscars, vous avez eu la Palme d'Or, avez eu des Golden Globes, vous êtes couronné partout.
Toutes les récompenses.
Hors de France.
Oui, toutes les récompenses que j'ai eues ont fabriqué beaucoup de jaloux. Voilà. Et au César, on vote souvent pour la personne dont on est le moins jaloux.
Vous en dites quoi, Philippe ?
C'est presque malheureusement trop vrai.
Alors, Philippe Azoulay, Tourner pour vivre, en fait, n'est pas un documentaire, et c'est pas du tout un making-of. C'est à la fois, je l'ai dit à l'instant, un voyage inédit, une expérience humaine, spirituelle, et une plongée dans le processus de création d'un cinéaste mondialement connu dont l'énergie est toujours en fusion. Vous deviez suivre Claude Lelouch pendant 3 ans, et vous l'avez suivi pendant 7 ans.
Ben oui, mais comme dans un film de Lelouch, rien ne se passe comme prévu, et les signes, hasard et coïncidence viennent se bousculer. Mais j'ai, comme vous venez de l'entendre, Claude a un rapport au monde et à la vie qui est très philosophique. En fait, il fait des divertissements grand public, mais il a sa propre philosophie. Et ce qui est intéressant, je crois, dans Tourner pour vivre, c'est qu'on partage à la fois la quête d'un créateur qui pourrait être n'importe quel créateur, cette quête absolue de vouloir faire des films, de partager sa passion et sa vision du monde avec les autres. Mais Claude a une particularité et qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il a un goût prononcé pour l'instant et pour la vie. Il a un appétit de la vie, ouais. et une curiosité. Et il a en même temps une innocence et un œil vraiment acéré. Donc il m'a fait l'effet d'un Tintin, en fait. Et j'ai tourné ce film en pensant à Tintin, notamment quand je suis parti en Inde avec lui. En me disant, voilà,
jusqu'au Rajasthan, jusqu'au Cachemire,
l'Himalaya,
sur le toit
exactement.
Du monde. Voilà.
Et Claude était comme un enfant émerveillé et qui découvrait tout ça et en même temps faisait sa propre analyse, sa propre philosophie. Et il est comme ça dans tout. C'est-à-dire que comme c'est un éternel optimiste, même face aux mauvaises nouvelles, il arrive à voir le côté positif. Et je me suis dit, c'est extraordinaire parce que j'ai mon personnage principal qui est un aventurier et qui court la vie et le monde.
Voilà.
Et s'il arrive à nous entraîner, si j'arrive à capter son regard et cette énergie et cet esprit en fusion qui passe sa passion,
je me dis... Ah ben je vous dis, vous l'avez capté. Alors, d'ailleurs, vous confiez, Tourner pour vivre, bah, c'est un film de dingue sur un fou, fait par un cinglé. Le fou magnifique, bien sûr, c'est Claude Lelouch, qui, à plus de 80 ans, court le monde, donc caméra au point, à la recherche du sens de la vie. Et puis le cinglé, c'est vous, hypnotisé par la quête existentielle de cet homme. Qu'est-ce que vous avez appris de plus étonnant en le suivant caméra au point, comme ça, pendant presque une décennie?
Il m'a un peu changé ma manière d'appréhender le travail. Je fais partie de ces réalisateurs qui étaient persuadés que le travail d'écriture et de préparation et de mise en place était vraiment décisif. Et j'ai vu à quel point il arrive à cet instant et en fait se libère de tout et se laisse aller à tout bousculer, ce qui n'est pas la règle de ce métier, parce que...
Du tout.
Avant de direction, il s'est passé des semaines, voire des mois, voire des années de préparation pour arriver à ce moment-là. Et tous les réalisateurs, au moment où ils disent action, ils espèrent que tout a été calé, que tout est là, que tout est bon et que ça va rouler. Or, lui, ce qu'il attend, c'est au moment où il dit action, il espère que le contraire va arriver, qu'une fenêtre va s'ouvrir, qu'un personnage imprévu...
Que les dieux là-haut vont bousculer un petit peu les choses.
Non, mais faire un film, c'est comme faire un combat de boxe. Vous montez le ring, et puis vous allez donner des coups et en recevoir. La vie, c'est ça. On donne des coups et on en reçoit. La seule certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que dans la vie, les choses ne se passent jamais, jamais comme on les avait imaginées. C'est toujours un peu plus ou un peu moins. Quand c'est un peu plus, début du bonheur, quand c'est un peu moins, début des emmerdes.
Bon, dans Tourner pour vivre, en fait, Philippe Azoulay, vous avez filmé ce que le grand public ne voit jamais. Alors, au début du film, il y a ce postulat. Filmer un créateur, Claude Lelouch, qui à la fin de sa vie veut faire encore mieux qu'avant et aller encore plus haut. Claude Lelouch, il a raison, Philippe Azoulay, de dire que le temps qui passe, en fait, est votre obsession. Le temps, c'est le grand patron.
Oui, parce que c'est le seul critique qui compte. Je veux dire que tout ce qui résiste au temps a un sens. Je veux dire que la vie n'a pas de sens. Elle a une direction, c'est le cimetière, c'est tout. Mais le sens de la vie, c'est quoi? C'est le plaisir du présent. C'est le plaisir du présent en sachant qu'on a tous rendez-vous au même endroit. Donc, puisqu'on a tous rendez-vous à ce fameux endroit, autant y aller en chantant. Et le présent nous fait chanter. Le présent a toujours raison parce que, d'abord, il a de l'humour, il adore les surprises, il est joueur... Et puis le présent, qui c'est qui met en scène le présent? C'est le grand metteur en scène là-haut, qui lui s'amuse avec nous. Il sait très bien que la vie est un jeu. Et à chaque fois qu'on a trop prévu les choses, ça l'agace. Ça l'agace, il supporte pas. Donc il nous oblige en permanence à réagir aux surprises qu'il nous propose. Voilà. Et ce sont ces surprises que j'ai envie de filmer.
Alors, le temps qui passe, c'est le grand patron. Mais Claude Lelouch, Clint Eastwood, qui va sur 92 ans, a réalisé l'année dernière Cry Macho.
Oui.
Vous êtes un gamin à côté de lui, donc.
Oui.
Quel film rêvez-vous de tourner bientôt ?
Je rêve de tourner un film qui me donne envie de plus tourner.
C'est-à-dire, ce serait le film absolu de beauté, de force, et presque testamentaire.
Voilà, le film qui dit, bon, bah, écoute, moi, je n'ai plus rien à dire. Voilà, donc maintenant, j'arrête. Vous savez, comme un boxeur, tout à l'heure, je disais, un jour, il y a des boxeurs qui disent, bon, je ne ferai pas mieux. Je ne ferai pas mieux. Et je n'ai pas envie de faire le film de trop. En plus, moi, je fais un cinéma très physique.
Oui.
Très physique,
oui.
Parce que...
On le voit dans Tourner pour vivre.
Je fais tout, je suis un cinéaste amateur. Donc les cinéastes amateurs, ils font tout, ils écrivent, ils tournent, machin, ils s'occupent du son, de l'image, du montage, de tout. Voilà. Donc si vous voulez, tant que le physique est là, je peux faire du cinéma. Mais je sais très bien qu'à l'âge que j'ai, à un moment donné, on va me dire stop.
Il est coquet hein, en disant « je suis un cinéaste amateur ».
Oui, oui, mais... Non,
mais je le pense vraiment. Je le pense vraiment et de plus en plus. Et de plus en plus parce qu'un cinéaste amateur, il tourne... Quand il veut. Quand il est riche ou quand il est pauvre, il s'en fout. Moi, quand j'ai été pauvre, j'ai fait des films de pauvres. Quand j'étais riche, j'ai fait des films de riche. Si demain matin, je n'avais plus rien, avec mon portable et trois copains, je fais un film.
J'ai mille questions à vous poser à tous les deux. Alors, on fait vraiment une pause très, très courte. Et on se retrouve tout de suite sur Europe 1 en compagnie, cet après-midi, de Claude Lelouch et Philippe Azoulay.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Tourner pour vivre, film sur Claude Lelouch, est aussi euphorisant qu'un film de Claude Lelouch. Il y est question de quête, de création, d'absolu, d'amour et de temps qui passe. Tourner pour vivre sort en salle mercredi et je reçois Claude Lelouch et Philippe Azoulay, son réalisateur. Alors cher Claude Lelouch, on sait tous bien sûr qu'enfant, les salles de cinéma vous ont sauvé la vie en vous permettant pendant la guerre d'échapper aux rafles de la Gestapo. Mais ce que le public ignore, sans doute, peut-être en tout cas, c'est à quel point le scénario de votre enfance est sidérant. Après la débâcle de 40, votre père avait compris, avant beaucoup d'autres, que les Juifs en France seraient persécutés. Donc, en 41, il a emmené sa famille à l'abri à Alger. Or, tout a basculé quand votre maman a désobéi à votre père sous prétexte d'aller voir sa sœur qui allait accoucher à Nice. Votre père était furieux de savoir qu'elle allait prendre le bateau, il lui a interdit... Elle vous a embarqué, elle a fait une petite valise, elle a traversé la Méditerranée et là...
Catastrophe. Les Américains débarquent en Afrique du Nord et je suis séparé de mon père. Je suis séparé de mon père et on était partis pour 24 heures avec un change, quelques sous pour ma mère.
Vous étiez partis pour 24 heures ?
Oui, parce qu'on était partis pour aller assister à l'accouchement de la sœur de ma mère et elle se retrouve comme ça et d'un seul coup, on lui apprend que... On ne peut plus retourner en Algérie.
Voilà, plus aucune liaison, plus aucun bateau.
Plus rien du tout.
Et elle n'a plus un sou.
Voilà, et elle n'a plus un sou.
Et alors, c'est la guerre.
Et c'est la guerre.
Et il faut se cacher.
Et comme elle est un peu naïve, elle va dépenser et essayer de gagner un peu d'argent au casino de Monte-Carlo.
Alors,
j'oserais même pas mettre ça dans un film.
Non, mais ça, c'est incroyable.
Voilà.
C'est-à-dire qu'elle va, le peu d'argent qui lui reste, elle va tout mettre sur la roulette
au
casino.
Oui, parce que...
En faisant des prières.
Avec ce qu'on a, on a de quoi tenir trois jours. Et elle dit, on va rester ici très longtemps, il faut que j'ai un peu plus d'argent. Donc naïvement, elle va au casino de Monte-Carlo et évidemment, elle perd tout. Elle perd tout, elle sort en larmes. Et là, encore une fois, le hasard a du talent. Enfin, du talent. Je dirais même, il peut être cruel aussi. Et elle tombe sur un ami... Un cousin éloigné, très éloigné, qui voit ma mère en larmes, elle lui explique ce qui se passe et il lui dit « Écoute, moi j'ai des relations, j'ai un ami, un très bon ami à Paris, qui peut-être te trouver le moyen, en passant par le Portugal, de rejoindre l'Algérie, va le voir de ma part, il s'appelle Mazoui, il est rue Lauriston à Paris. »
Rue Lauriston, mon Dieu.
Voilà. Et nous, on ne savait pas ce que c'était que la rue Lauriston à l'époque. Et évidemment, on remonte sur Paris avec ma mère, on prend un train de nuit. Le lendemain, elle est rue Lauriston et elle va voir ce fameux Mazoui. Il s'appelle Mazoui, c'est un Belge. Et c'est un des grands patrons de la Gestapo.
Mais alors, ça aussi, vous n'auriez pas osé le mettre dans un film.
Mais j'oserais pas.
Mais alors, ce cousin éloigné savait que le fameux Mazoui était un des grands chefs de la Gestapo ou il l'ignorait ?
Non, on ne savait pas encore. On l'a su après la guerre. Donc, elle va voir cet homme... en espérant que c'est un ami de notre ami et qu'il va nous rendre service.
Et là, que lui dit-il ?
Et là, donc, ma mère, notre ami lui avait dit, tu lui racontes tout, tu lui dis tout, il va trouver une solution.
Donc, elle raconte elle qu'elle, lui est dit qu'elle est juive, qu'elle a un petit enfant juif à cacher.
Et qu'elle veut retrouver son mari qui est à Alger. Voilà. Et donc, le fameux Mazoui, il dit, bah, écoutez, dans 8 jours, je vous fais déposer à Alger avec un petit avion. Alors ma mère, elle ne comprend pas sur le moment. Elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il va falloir que je passe à la casserole ? Enfin, elle est interpellée et il lui dit, écoutez, c'est très simple. En 8 jours, on va vous apprendre à vous servir d'un petit poste émetteur et vous allez nous dire tout ce qui se passe avec les Américains en Algérie. Donc, il transforme ma mère en espionne.
En espionne. Et là, que dit-elle ?
Alors, sur le moment, elle ne comprend pas. Le soir, on rentre à la maison chez un oncle à nous qui nous hébergeait à Paris et elle dit, je ne peux pas trahir la France. Je ne peux pas trahir la France.
Je ne peux pas trahir ma famille, mes amis, ma nation.
J'aime mon mari, j'aime mon fils, qu'est-ce qu'on fait ? Et évidemment, dans la nuit, on a décidé de partir. Dans la nuit, parce que le lendemain, elle n'a pas été au cours pour apprendre à se servir d'un poste émetteur.
Alors ça veut dire que dès le lendemain, le chef de la Gestapo a dû mettre plein d'indices à ses trousses. Voilà, et vous étiez recherché partout dans Paris.
Voilà, et partout, dans toute la France.
Mais je dis déjà dans Paris, parce qu'il fallait en sortir de Paris. Voilà. Et vous n'aviez pas du tout d'argent.
Non, on n'avait rien du tout. Et donc, on est tombé sur encore un ami qui nous a prêté un peu d'argent, un tout petit peu d'argent, pour faire des faux papiers. Et avec ces faux papiers, on est redescendu dans le Midi, en zone libre. Voilà. Et évidemment, à un moment donné, on traverse la ligne de démarcation en pleine nuit à Dijon, dans le train, je m'en rappellerai toute ma vie, à 2h du matin. Les Allemands arrivent dans le compartiment et vérifient les papiers. Évidemment, les papiers étaient tellement mal faits qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas nos vrais papiers. Donc, ils nous demandent de descendre du train pour partir là où sont partis la plupart des gens qui ont été arrêtés. Et ma mère, qui a un coup de génie, parce que c'était quand même
un personnage.
Oui, elle s'appelait Eugénie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait du génie, a eu le culot d'enlever sa montre et de la donner au gars qui venait nous arrêter. Et pendant une seconde, le gars n'a pas compris, il était interpellé, et puis il a pris la montre, il l'a mis dans sa poche, il nous a laissé remonter dans le train. Donc si ma mère ne donne pas sa montre, je ne suis pas là en train de parler devant ce micro en ce moment. Voilà.
C'est hallucinant.
Et tout a été comme ça après. Et après, elle m'a caché dans les salles de cinéma.
Mais c'est ça. Parce que bon, ça a été une véritable errance dans toutes les villes qu'il a fallu traverser. Déjà dans la France occupée avant d'arriver en zone libre. Donc, votre maman, elle a trouvé ce subterfuge magnifique de vous déposer dans des salles de cinéma des après-midi entières en demandant à l'ouvreuse, moyennant pourboire, de jeter un œil sur le bambin de 5-6 ans que vous étiez.
C'est ça.
Et vous avaliez des films en permanence.
Et ça a été la plus belle période de ma vie parce que j'ai été au cinéma toute la journée. Toute la journée. En plus, les cinémas étaient permanents, donc je revoyais 3 fois le même film. Je me disais, tiens, ils vont peut-être changer la fin dans l'autre. Pendant les entractes, j'allais derrière l'écran, je pensais que j'allais voir les acteurs. J'étais très, très naïf. Je savais pas qu'il y avait des metteurs en scène.
Donc, vous étiez au paradis, en pleine période d'enfer. Vous étiez au paradis grâce aux salles de cinéma. Le cinéma vous a sauvé au propre comme au figuré. Ce fut l'acte fondateur, n'est-ce pas ? Philippe Azoulay, il y a tout le cinéma de Lelouch dans la tragédie de son enfance, en fait.
Oui, en fait, c'est la genèse. Et comme il vient de le raconter, c'est une tragédie, mais que le cinéma a transformé en positif, parce que de cette histoire qui est somme toute triste et dramatique pour d'autres, ça en a fait un cinéaste. Donc c'est merveilleux, parce que il s'est caché dans les salles obscures et en fait, ça a donné, la graine a poussé et a fait un cinéaste heureux. Et j'imagine que beaucoup d'autres cinéastes, sans doute dans le monde, ont vécu aussi des choses comme ça, aux quatre coins du monde, sans le savoir, en vivant une émotion dans une salle et en se disant un jour, je vais le faire. Comme en musique, d'autres ont entendu un jour Ella Fitzgerald ou je ne sais pas.
Alors Philippe Azoulay, vous, vous ne pouviez pas échapper au destin de réalisateur pour des raisons bien évidemment très très différentes de celles de Claude, mais pour des raisons tout aussi efficaces parce que votre père était reporter de guerre et votre maman appartenait à une famille vraiment pionnière de l'aventure cinématographique en France avec des producteurs, des distributeurs qui ont carrément lancé qui ont lancé le concept, j'ai presque envie de dire, du film d'auteur. Pourquoi, au fil de votre carrière, vous avez choisi ce genre si particulier qu'est le documentaire ? Parce que vous auriez pu, vous aussi, vous attacher exclusivement à la fiction, comme Claude Lelouch ?
Mais je ne l'ai pas choisi, et puis je fais de la fiction aussi. Là, dans le, je viens, en effet, ma famille maternelle, qui viennent d'Odessa et de Mélitopol, vous voyez, donc on est dans une actualité troublante. En effet, pendant depuis plus de 120 ans, œuvré dans le cinéma et défendu cette idée, eux qui étaient des apatrides, juifs apatrides et qui fuyaient la folie des hommes, ont toujours été convaincus, mon arrière-grand-père a toujours été convaincu que la culture et le cinéma, en l'occurrence, qui était le plus grand des médias, pouvait émanciper les esprits. Donc il a toujours cherché à travailler, que ce soit avec Chaplin, Renoir, Pagnol, voilà, qui était ses
partenaires. Oui, c'est votre arrière-grand-père qui, le premier, a par exemple distribué les films des Frères Lumière.
Non, il a croisé la route des Frères Lumière quand il fuyait la Russie ou l'Ukraine, je ne sais plus, tout dépend de l'époque où l'on se place. Il est parti retrouver son frère à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, qui avait des théâtres. Et là-bas, ils étaient sans le sou, puis il a vu les Frères Lumière passer, qui étaient c'était en 1900 et quelques, 1910, qui venaient présenter le cinématographe. Et eux, en 1910, ils se sont dit, mais il y a un truc à faire. Et ils ont, ces cinémas Paradiso, ils ont tendu des toiles et ils sont partis de rien. Et puis après, quand Atatürk a pris le pouvoir en Russie, en Turquie, ils ont quitté la Turquie en disant, il y a les Arméniens maintenant, ça sera nous les prochains. Ils sont arrivés en France, ils n'avaient pas le sou, et puis... Plutôt qu'être taxi comme la plupart des Russes qui arrivaient en France, mon arrière-grand-mère a dit à mon arrière-grand-père « Non, non, tu ne vas pas recommencer à zéro, tu sais faire maintenant du cinéma. » Puisqu'il avait ouvert le premier cinéma en Turquie. Voilà. Et donc, il a recommencé, il a repris un cinéma qui était le Chanteclair dans le 18e. Et d'un cinéma, et à deux cinémas, et trois cinémas. Et puis, il est devenu énorme jusqu'en 1942. Et il a toujours pensé ça. Donc, c'est lui qui sortait au Marivaux les films de Renoir, enfin tous les films, mais Renoir, La Grande Illusion, ou d'Anatole Lilvac sur les espions nazis, ou d'autres films, les Pagnols, il était associé. Donc,
les Allemands lui ont confisqué.
Ben, il était juif, donc il n'avait pas le droit de travailler, il n'avait pas le droit d'avoir de salle, mais il a refusé de porter l'étoile jaune et de fermer ses salles. Donc, dans les journaux, on l'accusait de faire de l'antinationalisme. On disait le juif Syritsky. Et après, malgré les lois, il disait « je ne ferme pas, je continue ». Il avait eu l'idée géniale d'offrir le cinéma gratuit aux militaires, qu'ils soient allemands ou français, en disant « mais qu'ils aillent voir La Grande Illusion, qu'ils aillent voir des films humanistes et peut-être qu'ils vont comprendre la bêtise dans laquelle nous sommes tous ». Et donc, il a tenu aussi longtemps que possible. Et puis, à un moment, ils ont dû quitter le pays parce que Goebbels et les autres voulaient leur peau. Donc, il a quitté, ils sont partis en passant par le Portugal, Estoril, puisque c'était l'endroit où tout le monde fuyait, et ils sont partis en Amérique. Et là-bas, ils avaient déjà des choses en place. Ils ont recommencé à zéro et ils ont inventé ce qu'on appelle les Art House Theater, ce qui est aujourd'hui le cinéma d'art et essai. Et puis, ils passaient les films des cinéastes avec lesquels ils travaillaient. Et puis, ils ont sorti en 49, Rome, ville ouverte, tout ça. Et puis, ils se sentaient européens et pas français. Et mon arrière-grand-père a voulu revenir en France en 49, Pagnol, et tout le monde disait « ne reviens pas, traîner ». Moi, je ne le savais pas, mais j'ai été surpris d'apprendre que traîner, Pagnol et les autres étaient considérés comme des collaborateurs en 49 par l'État français. C'est très étonnant, mais c'est la réalité. Donc, ils disaient « ne reviens pas là-bas, ils sont fous ». Mais lui, il a voulu revenir pour récupérer son groupe, qui aujourd'hui s'appelle UGC, qui avant s'appelait le Circuit Syritsky. On n'a pas voulu lui redonner, on l'a mis en prison. Et ses deux fils ont abandonné leur affaire en Amérique pour venir défendre leur père, parce qu'il était mourant. Et ils ont recommencé une carrière. Ils ont abandonné tout leur groupe, à condition qu'on laisse mourir le père tranquillement. Et ils ont recommencé une carrière à Tosfilm. Et puis là, ils ont découvert de nouveaux cinéastes, qui étaient Bergman, Kubrick, Antonioni, Rossellini, Godard, Truffaut... Et Lelouch.
Non, mais c'est absolument extraordinaire. Alors, moi, vous voyez, je me bats, vous dites que le temps, Claude, et le grand patron, je me bats contre le chrono. Je suis obligée de vous interrompre, mais je comprends que personne, Philippe Azoulay, personne plus que vous, vu votre ADN cinématographique, n'était légitime pour suivre donc caméra au point Claude Lelouch pendant 7 ans et nous offrir ce road movie hors norme, baptisé Tourner pour vivre. Voilà, quand le talent se marie au destin et tout ça avec une énergie et une générosité, une envie farouche de vivre. On fait une pause très courte et puis on poursuit cette balade passionnante en compagnie de Claude Lelouch et de Philippe Azoulay sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Tournée pour vivre de Philippe Azoulay sur la quête à la fois cinématographique et existentielle de Claude Lelouch est en salle mercredi prochain. Il ne faut surtout pas le rater. Cher Claude Lelouch, c'est fou parfois comme la vie peut décider de vous faire connaître l'opprobre et le désespoir avant de vous faire connaître la gloire. Je plante le décor. Voilà, vous aviez 22 ans quand vous avez réussi à bricoler votre premier long métrage. Il avait pour titre « Le propre de l'homme ». Il a été projeté à la Cinémathèque. Vos parents étaient dans la salle et ça a été un pur cauchemar. Le film a été sifflé pendant une heure et demie. Vos parents étaient en larmes. Quelques jours plus tard, votre père, âgé seulement de 56 ans, est décédé d'un infarctus. La haine autour de cette projection a donc tué votre père. Est-ce qu'on pardonne ?
Oui, bien sûr qu'on pardonne. On pardonne tout, mais c'est vrai que mon père était la personne que j'admirais le plus au monde, encore aujourd'hui. Il m'a dit les deux, trois choses qui m'ont permis de sauter tous les obstacles auxquels j'ai été confronté. Et c'est vrai qu'il est mort dans mes bras, à 3 heures du matin. Et je pense qu'il est mort de l'accueil de ce film. Il ne s'est pas remis de ses sifflets. Une heure et demie de sifflets, le film a été... Et puis, donc il est mort dans mes bras, et donc j'en ai beaucoup voulu à ce film. J'ai eu le sentiment que ce film avait tué mon père. En plus, mon père m'avait beaucoup aidé, m'avait donné un peu d'argent. Enfin, on avait été mendier à droite à gauche pour faire le film. Et donc, j'ai eu le sentiment que ce film l'a tué. Donc, j'avais un esprit de revanche incroyable. Et donc, toutes les forces que j'ai eues après sont venues dans la nuit. Je me suis dit, ça serait formidable que je parte avec lui. Voilà. Et puis au petit matin, quand le jour s'est levé, une fois de plus, c'est toujours au petit matin, j'ai jamais été aussi fort. Comme si dans la nuit, il m'avait donné toutes ses forces.
Oui, pour le venger.
Voilà. Et à partir de cela, je ne sais pas, mais à partir de cela, à partir de ce moment-là, j'étais un autre homme. J'étais un autre homme et j'ai changé dans la nuit.
Mais ce qui est quand même terrible, c'est que la Palme d'Or à Cannes, pour un homme et une femme, les Oscars à Hollywood, les Oscars remis par Ginger Rogers et Fred Astaire, que vos parents adoraient, parce qu'ils se sont rencontrés dans un cinéma où on projetait justement un film avec Ginger Rogers et Fred Astaire. Et ce sont eux qui vous ont remis l'Oscar pour un homme et une femme. Et puis tous ces Golden Globes. Votre père est parti sans savoir que le monde entier allait vous couronner.
Oui.
Il a cru que son fils était maudit.
Oui, parce qu'il avait eu le temps de lire une critique des Cahiers du cinéma où on disait « Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Tout ce qui nous arrive, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a un sens. Je ne regrette rien, je veux dire que tout ce qui m'a fait du mal m'a fait du bien. Je veux dire, on ne dira jamais assez aux gens que tout ce qui nous fait souffrir est positif. Voilà, c'est pour ça que je m'accroche au positif et que j'essaye, à travers mes films, de faire aimer la vie aux gens. Il y a trop de gens qui crachent dans la soupe, il y a trop de gens qui... Vous savez, si la vie, elle m'aime bien, c'est parce que je l'aime. Je veux dire que c'est comme dans les histoires d'amour, il faut être deux à aimer. Voilà. Voilà. Et si vous n'aimez pas la vie, elle peut vous faire la gueule de temps en temps.
En tout cas, après ce qu'on vient d'évoquer, vous auriez pu renoncer au cinéma, c'était mal vous connaître. Effectivement, vous venez de nous confier comment au petit jour, soudain, c'est comme si la lumière venait vous toucher. Alors, Claude Lelouch, après Les Scopitones et quelques films expérimentaux, est arrivé enfin Un homme et une femme qui demeure, je le précise, dans l'histoire du cinéma, le film qui a coûté le moins cher et rapporté le plus d'argent dans le monde, toujours en 2022. Mais quand on parle de la nouvelle vague, Claude Lelouch, on ne vous cite jamais. Pourtant, Un homme et une femme a remis à plat les codes du cinéma.
Oui, mais c'est vrai que vous savez, quand le film est sorti, Truffaut est venu me voir, très gentiment, pour me dire à quel point ce film lui plaisait. Et il me dit, ce film, c'est le film de la nouvelle vague. C'est la première fois qu'un film de la nouvelle vague va faire le tour du monde. C'est formidable que d'un seul coup, les films de la nouvelle vague ne soient pas confidentiels.
Voilà.
D'un seul coup, le public s'empare d'un film de la nouvelle vague comme d'un film populaire. Et je dis à Truffaut, je lui dis, écoutez, je remercierai jamais assez la nouvelle vague parce que vous m'avez montré tout ce qu'il ne fallait pas faire. Un film a besoin du premier degré, et c'est le premier degré, c'est seulement quand le premier degré est réussi qu'on peut mettre le deuxième, le troisième et le quatrième. Et dans mon film, il y a du premier degré, alors que dans les films de Hans Zimmer, vous méprisez le premier degré. Et je disais, moi j'ai tout appris dans la cour de récréation, tout. n'y a pas un enfant qui irait à l'école, ce n'est pas la cour de récré. Et je lui ai dit, il faut qu'un film soit d'abord une récréation. Et quand on a réussi la récréation, on peut balancer quelques idées.
Alors parlons d'aujourd'hui. Vous dites, Claude Lelouch, aujourd'hui il y a trop d'images. On est envahi par les images à la télé, sur les plateformes, sur nos ordinateurs, sur nos portables. Alors comment redonner ces lettres de noblesse au cinéma ?
Eh bien c'est, aujourd'hui trop de cadeaux tue le cadeau. Aujourd'hui il y a 7 milliards de gens qui filment. Et nous sommes tous des cinéastes. Nous sommes tous ici, avec nos yeux, c'est la plus belle des caméras du monde. Notre cerveau, c'est la plus belle salle de montage. C'est ce qui reste quand on a tout coupé. Et aujourd'hui, le cinéma a besoin de se réinventer. Je veux dire qu'aujourd'hui, les télés, les plateformes ont tout pompé au cinéma. Et ils font du cinéma au rabais. Ils font du cinéma pop-corn. Et aujourd'hui, le cinéma a besoin de se réinventer. Et il faut qu'il y ait une grosse crise comme celle qu'on est en train de traverser, pour qu'on revienne à la prise de risque, qu'on refasse des films pour le grand écran, avec des grands spectacles.
Quand vous parlez du grand écran, vous parlez des salles.
Je parle des salles.
Mais parce que vous savez bien que dans 10 ans, les salles de cinéma n'existeront plus.
Si. Mais elles seront même plus grandes.
Elles disparaissent.
Elles seront encore plus grandes qu'aujourd'hui. Et il y aura des films de fous, de dingues, parce que les grands metteurs en scène de demain, ils sont dans la rue en ce moment.
Donc les films d'auteur ne vont pas disparaître, laminés par le cinéma commercial.
En ce moment, oui. On est en train de traverser cette période. Mais un jour, on va s'apercevoir que ce qui nous manque, c'est les films d'auteur.
Oui, parce qu'il faut expliquer au grand public qu'aujourd'hui, quand on va voir un producteur, il y a tellement de commissions qui pétrissent et qui malaxent un scénario qu'il ne ressemble plus du tout à l'arrivée au moment d'être tourné à ce qu'il était au départ. Et puis, tout le monde donne son avis. Les chaînes de télé qui donnent de l'argent, n'est-ce pas ?
C'est pour ça que je pratique
un cinéma d'amateur. Le diffuseur,
le
distributeur, vous en dites quoi, Philippe Azoulay ?
Je ne suis pas sûr que ce soit la faute aux films commerciaux que le cinéma... qui pénalise le reste du cinéma. Je pense plutôt que ce sont les acteurs financiers de cette industrie qui sont les responsables, les fautifs. Ce ne sont pas les films eux-mêmes. Il a toujours fallu des divertissements grand public. Hein, on a envie de voir, Claude Berry le faisait très bien.
Je ne dis pas que c'est la faute des films commerciaux, mais en tout cas, c'est au bénéfice des films commerciaux que disparaissent les films d'auteurs.
C'est la faute à ceux qui les exploitent et ceux qui les distribuent, à ceux qui font l'économie de ce marché, et pas les films eux-mêmes. Il a toujours existé des films d'un genre et d'un autre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on sort des films de qualité ou pas, sur un maximum d'écrans et qu'on ne laisse plus le temps aux films de s'installer, de créer un bouche-à-oreille et à tous les cinémas d'exister. Donc comme les...
Mais c'est aussi le problème, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est aussi que les gens regardent de plus en plus les films sur les plateformes, ils sont installés sur leur lit, ils sortent l'écran d'ordinateur et ils partent ainsi au cinéma sans aller dans les salles.
Parce que c'est devenu beaucoup plus facile, le Covid l'a peut-être accéléré, mais là aujourd'hui, si vous voulez voir un film et que les séances, c'est une séance à 14h, l'autre à 18h, pas dans cette salle, ou alors que vous avez des salles où on vous passe 3 fois le même film sur 3 écrans différents, j'ai l'impression que par crainte, par peur qui anime le monde économique du cinéma, on court après des entrées au lieu de comprendre qu'il faut en donner pour tous et que c'est la diversité. Tout comme le théâtre existe toujours, nous fabriquons des prototypes lorsqu'on fait du cinéma, des films ou du documentaire. Et donc, plus les prototypes sont de qualité, plus les gens iront les voir dans des bonnes conditions. Si les prototypes ne sont pas de qualité et que les conditions pour y aller sont compliquées, pourquoi vont-ils se déplacer ?
Alors, moi, je veux reparler justement d'un prototype, comme vous dites, d'excellente qualité. C'est Tourner pour vivre, qui est en salle mercredi prochain. Bon, dans ce road movie inédit, donc sur la quête de Claude Lelouch, vraiment road movie caméra au point, on voit bien que Lelouch fait plus que des films. Il réécrit la vie dans une course contre la montre, tel un démiurge qui voudrait rebattre les cartes. En fait, Claude Lelouch, qu'est-ce que vous cherchez depuis 60 ans que vous tournez ?
Je cherche à comprendre le sens de la vie. Et je suis triste de voir ce que je disais tout à l'heure, à quel point les gens passent à côté du présent. Je veux dire que le présent, c'est lui qui... le cinéma, il ne peut filmer que le présent. Qu'est-ce que je cherche dans mes films ? Rien. Je suis un observateur et j'ai envie de partager, comme une concierge, parce que je suis curieux de tout, j'ai envie de partager mes observations avec le plus grand nombre. Et j'ai trouvé le cinéma parce que c'est l'art populaire le plus populaire qu'on ait jamais trouvé. Voilà.
Mais Par exemple, vous dites que Dieu et le hasard sont les plus grands scénaristes, mais la réalité ne vous suffit pas puisque vous faites des films.
Si, parce que...
Ce que Dieu et le hasard vous proposent ne vous suffit pas. Vous retricotez tout.
Non, je copie. je copie.
C'est magnifique, j'ai un scoop.
Je lui ai tout pompé. Si Dieu pouvait me faire un procès, il le gagnerait. Je payerais des indemnités.
Vous confiez dans Tourner pour vivre avoir déposé plus d'une centaine de scénarios et vous dites « Je vais mourir sans avoir fait le dixième des films que j'ai imaginé ». Ça, c'est une mélancolie ?
Non, c'est une certitude. C'est une certitude parce que, encore une fois, mais vous savez, je pense que je vais très vite être recyclé comme tous mes autres copains. Belmondo, Tapie, Francis Lay, tous ces gens qui m'ont quitté, Bir Barou, enfin la liste est impressionnante. Voilà. Et je suis allé à leur enterrement. J'ai jamais été triste parce que j'ai l'intime conviction que le meilleur d'entre nous est gardé. J'en suis intimement convaincu. Et vous verrez dans mes prochaines vies, je vais faire des sacrés films.
Vous ne pourriez jamais tourner un film écrit par un autre, n'est-ce pas ?
Non, je ne pourrais pas parce que je prends trop de liberté. Et quand on travaille pour un autre, il faut le respecter. Donc c'est... Alors le seul que j'ai osé adapter, c'est Victor Hugo, Les Misérables. Mais je l'ai tellement adapté à ma sauce et puis il n'était pas là pour m'engueuler.
Philippe Azoulay, 7 ans tout de même, 7 ans passés à courir le monde aux côtés de Claude Lelouch, à le suivre du chalet enneigé où il a tourné Salon On T'aime avec Johnny jusqu'au toit du monde en Inde, au Cachemire, au Rajasthan, où il a tourné 1+1 avec Jean Dujardin et Elsa Silberstein, bah ça crée des liens très singuliers. Vous êtes devenu un fils, un confident, un complice, un frère, un membre à vie de l'univers lelouchien.
C'est ce que je dis souvent. Pour moi, c'est un grand frère. Et ce qui est très agréable, c'est qu'au bout de maintenant 10 ans, puisque le film a commencé le tournage en 2012, donc ça fait 10 ans, on est resté copains, on s'est pas fâchés. Et voilà, alors qu'on aurait pu ne plus du tout supporter parce que
vous lui montriez les montages.
Je cachais rien, donc comme je montais au film 13, j'avais cette chance de pouvoir bénéficier de ça.
Parce que c'était monté carrément chez Claude Lelouch.
Ouais, comme nous sommes les deux producteurs, comme personne n'a voulu croire en ce projet. J'ai créé une société de production en 2014. Il m'a rejoint dans la production et on l'a fait tous les deux. Malheureusement, tous les deux, parce qu'on aurait aimé avoir plein de partenaires, et heureusement qu'on l'a fait comme ça, parce que ça donne ce film qui n'aurait jamais existé sinon. On l'a fait totalement librement.
Et il vous a donné carte blanche.
Voilà, moi je tournais, il m'a jamais emmerdé pour m'interdire. Là, je tourne seul quand je fais du documentaire pour pouvoir être invisible et libre. Il venait souvent, regardait comme ça, curieux, mais je dois avouer que il ne m'a jamais, là je le dis parce qu'on pourrait penser qu'il ne m'a jamais rien demandé d'enlever ou d'ajouter. Il a regardé. Ça m'est arrivé 2-3 fois de lui poser la question, notamment avec les séquences avec Johnny, parce que j'ai des heures de rush avec Johnny qui dévoile des choses qu'on n'a jamais entendues.
Très émouvante.
Et donc, je lui disais, je mets ça ou je ne mets pas. Et j'ai dû supprimer la plupart. De moi-même, hein, j'ai posé, là, c'est passionnant, mais ce n'est plus le film. Donc, j'ai dû retirer plein de choses. Donc, ça m'est arrivé de lui demander. Mais j'ai fait ce film vraiment librement. Je n'ai pas eu de contraintes. Et il était mon sujet et mon coproducteur, mais ne m'a rien imposé.
On retrouve tout de suite Claude Lelouch et Philippe Azoulay.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Tournée pour vivre, film de Philippe Azoulay sur Claude Lelouch, est en salle mercredi prochain. Claude Lelouch, Philippe Azoulay, qu'est-ce qui décide du succès d'un film, si ce n'est pas sa qualité? Et qu'est-ce qui provoque un échec en salle quand un film est bon, très bon?
C'est un peu comme dans les histoires d'amour. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un, et pourquoi elle ne vient pas? Pourquoi elle vous pose un appât? Voilà. Alors des fois, le public...
Eh bien, pourquoi parfois le public ne vient pas pour un film qui est formidable?
Voilà. Alors parce que le bouche-oreille est un drôle de truc. On parlait tout à l'heure de l'avenir du cinéma. Ce qui tue aujourd'hui le cinéma, c'est que le bouche-oreille n'a plus le temps d'exister. Le bouche-oreille, il lui faut entre 4 et 5 semaines pour s'installer. Et aujourd'hui, au bout de 4 ou 5 semaines, les films ne sont plus à l'affiche. Le bouche-oreille, c'est un drôle de truc. Pour envoyer quelqu'un dans une salle qui n'a pas envie de voir un film, il faut le lui dire au moins 10 fois. Si vous lui dites « c'est pas mal, ce film va le voir ». Bon, mais si le lendemain, on lui redit la même chose, et puis sur le surlendemain, il faut qu'on vous dise à peu près 10 ou 15 fois d'aller voir un film que vous n'avez pas envie d'aller le voir pour aller le voir. Et donc aujourd'hui, on a tué le bouche-oreille parce qu'on ne lui laisse pas le temps de grandir, de mûrir. Et donc vous avez des films aussi dont le pitch est redoutable. Par exemple, moi j'ai fait L'amour, c'est mieux que la vie, c'est un film que j'adore. C'est un de mes films préférés. Et le public n'a pas été le voir parce que les
parce
gens...
Que parce que Gérard Darmon jouait le rôle d'un personnage en fin de vie.
Voilà, les gens disaient, c'est un film sur la mort, alors que c'est un film sur la vie. Et donc, à un moment donné, un des exploitants de Lyon m'appelle, un client arrive, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je voie aujourd'hui? Et le gars, il dit, allez voir Le Dernier Lelouch, vous allez voir, c'est formidable. Oh non, c'est un film sur la mort. Voilà, et donc, le pitch que font les spectateurs peut être très démobilisant, même quand il est bon. Vous voyez, il dit, ah non, c'est un très beau film, mais c'est un film sur la mort, c'est fini. Et il y a eu quelques films là, qui sont sortis sur la mort, et les gens disaient, c'est un film sur la mort, ils n'ont pas marché.
Claude Lelouch, dans Tourner pour vivre, on vous voit confier à la caméra après l'échec de Salut, on t'aime. Bon, maintenant, eh ben, j'attends un message du hasard. Alors, je vais donner une deuxième chance à mes superstitions. Je suis capable de démarrer le tournage d'un film à pile ou face, vous savez. Et pour choisir, d'ailleurs, eh ben, je pratique aussi le tir à l'arc. Alors là, il faut vraiment nous expliquer en quoi le tir à l'arc influe ou a influé sur votre filmographie. Qu'est-ce que le tir à l'arc vient faire dans tout ça?
Ça peut même être un jeu de fléchettes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, parce que dans le jeu de fléchettes, il y a la cible. La cible, c'est le but qu'on s'est fixé. Après, il va falloir lancer la flèche. Et la flèche, elle va faire un peu ce qu'elle veut. Elle va faire ce qu'elle veut et elle va vous répondre. Parce que il y a dans la fléchette ou dans la flèche l'irrationnel.
En même temps, et votre énergie, voilà, votre choix de voilà. tir, donc mais l'irrationnel.
Il y a votre volonté. Vous choisissez, vous dites je veux atteindre le centre de la cible. Donc, vous avez toute la volonté qui est là, et puis la flèche va aller se planter dans le mur. Et si, à un moment donné, vous dites, si je me plante dans le centre, et je voudrais faire ce film, et qu'on arrive dans le centre, j'y vais tout de suite. La flèche a donné ma réponse. Parce
quel film avez-vous fait ainsi?
Un homme et une femme.
Non.
Oui. Oui, quand je suis rentré de Deauville, où j'avais eu l'idée de faire ce film après avoir vu cette femme qui marchait, etc. Je suis rentré, je venais de faire 6 films qui n'avaient pas marché. J'avais un jeu de fléchettes chez moi. Et j'ai dit, est-ce que l'idée que j'ai eue ce matin, elle est bonne? Et est-ce qu'il faut en faire un film? J'ai pris la fléchette, je l'ai lancée, et c'est arrivé dans le centre de la flèche. J'ai dit, bon, je vais le faire.
Voilà. 2 Oscars à Hollywood, hallucinant.
Et pourtant,
la Palme d'Or.
Il est rationnel, mais il consulte l'oracle.
Voilà,
on est en 2022,
exactement.
Je dis ça pour les gens parce que ça peut paraître fou, j'en suis témoin.
Mais il ne faut pas être que cartésien.
Mais il consulte l'oracle. Alors là, moi, c'est quelque chose que je ne comprenais pas, enfin que je ne vivais pas.
Les superstitions, c'est la roue de secours de l'intelligence. Hein, il ne faut pas oublier ça. Moi, si
j'adore ces formules.
Voilà, si je fais appel aux superstitions, c'est parce que je ne suis pas assez intelligent. Et quand mon intelligence ne peut pas me donner la réponse, je fais appel aux superstitions.
Alors, cher Claude, parlons des acteurs maintenant. Vous dites, 9 fois sur 10, les acteurs et le metteur en scène ne font pas le même film. Mais bon, comme vous transformez sans cesse le scénario pendant un tournage, hein, vous démarrez avec 80 pages et à la fin, il y a 170 pages de scénario. Admettez quand même, Claude, que les acteurs, parfois, ne puissent plus savoir exactement quel film ils tournent.
Ben, c'est comme dans la vie, on ne sait plus très bien ce qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens, à un moment donné, ne savent plus s'il fallait à droite, à gauche. Regardez, au moment du vote, la semaine dernière, il y avait la moitié de la France qui ne savait pas ce qu'elle allait voter. Voilà, ben, c'est un peu ça, la vie. Donc, si vous voulez, moi, quand je commence un film, si un des acteurs me plaît beaucoup, je grossis le rôle.
Donc, celui qui, tout à coup, se rend compte qu'il a une après-midi de tournage en 2 mois...
Oui, non, mais encore une fois, je vous dis, c'est la dramaturgie qui fait qu'à un moment donné, c'est comme dans la vie, Là, je vous dis, aujourd'hui, je peux vous dire tout ce que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'à maintenant, mais je ne peux pas vous dire ce que je vais faire demain matin.
Alors, continuons de parler des acteurs. Claude Lelouch, vous détestez, par exemple, les textes trop bien appris. Vous détestez, en fait, le confort des répétitions, n'est-ce pas?
Oui, non, c'est-à-dire que je donne des textes. Mes films sont très, très écrits. Ils sont même trop écrits. Et c'est parce qu'ils sont trop écrits que je veux les réinventer au moment du tournage. À un moment donné, il faut synchroniser une idée, une lumière, une musique, un texte. Et qui va être la vedette de la scène? Ça peut être un accessoire, vous voyez, qui, à un moment donné, prend le pas sur tout le monde. Donc, encore une fois, c'est au moment où on est sur le ring qu'on peut boxer. Et au moment du tournage, j'ai tous les éléments qui sont là. J'ai l'élément du scénario, j'ai la bonne humeur ou la mauvaise humeur des... J'ai la lumière, le soleil est là, j'ai la pluie ou j'ai la neige, parce que je travaille aussi avec la météo. Quand
bien
on
sûr.
Dit il pleuvait beaucoup dans Un homme, une femme, est-ce qu'il pleuvait tous les jours ? Voilà, et c'est ce qui a fait le charme.
Bien
voilà.
sûr.
Donc, si vous voulez, je suis un metteur en vie. Je le répéterai jamais assez. J'aime la vie.
Mais alors, est-ce que vous aimez le théâtre, par exemple ?
Mais j'adore, j'adore. Je suis allé chercher tous mes acteurs au théâtre, parce que c'est quand même là qu'on les trouve. C'est
oui,
là.
Mais alors, s'il y a bien un lieu où tout est prévu, où tout est écrit, oui. et là, il n'y a pas soudain la météo qui vient tout bousculer.
Mais je pourrais vous
sur une scène de théâtre.
Je pourrais vous citer 10 grands metteurs en scène de cinéma qui ont tout prévu et qui font des chefs-d'œuvre. Moi, je vous parle de ma méthode.
Quels sont les acteurs qui vous ont le plus surpris dans votre carrière ?
Écoutez,
surpris.
Oui, je peux pas répondre à cette question. C'est comme si vous me demandiez lequel de mes enfants je préfère. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais
ça serait une insulte d'en citer un.
C'est pour ça que j'ai dit surpris.
Non, non, ils m'ont tous surpris et je suis sincère. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au montage m'ont surpris. Sinon, je les coupe.
Bon, le film qu'on imagine est très rarement celui qu'on tourne.
Oui.
Vous confirmez ?
Je confirme. Moi, je découvre mes films quand ils sont finis.
Vous confirmez aussi, Philippe Azoulay.
Encore plus dans le cas dans le cinéma de Claude, qui me fait penser aussi au cinéma de Cazavetes, parce que ce sont des cinéastes qui vivent leur tournage et dont le tournage fait le film. C'est-à-dire qu'il est aussi important que la réflexion qu'ils ont pu avoir avant. Il y a d'autres cinéastes comme Hitchcock ou d'autres, qui, tous les plans sont anticipés, sont préparés, sont établis. Et le tournage ne fait que procéder à la mise en application de la vision du cinéaste. Et c'est tout.
Dans votre art à vous, par exemple, qui avez davantage creusé le sillon du documentaire de Louis de Funès, par exemple, Alerte en Antarctique, et puis avec des films sur les problèmes environnementaux et humains, pareil, vous dites qu'il y a le film qu'on a dans la tête et celui qu'on réalise.
Alors encore plus en documentaire.
Encore plus, pourquoi ?
Parce qu'en fiction, vous partez, en tout cas dans mon cas, mais je pense la plupart de mes confrères, on part d'une obsession, d'une envie ou d'une passion. Et puis on la couche sur la feuille, et puis après on monte le film. Il y a des étapes, le financement, ce qui fait que c'est un long, long process jusqu'au film final. Et logiquement, on va vers ce qu'on cherche. Le documentaire, même si vous avez les idées claires et que vous savez ce que vous voulez raconter, le documentariste, c'est tout le contraire. C'est une éponge qui va prendre, non pas presser le jus qu'elle a en soi, mais qui va prendre le jus de l'autre. Et, donc, ça demande beaucoup d'humilité. Et même si je savais clairement l'intention, le projet que je voulais faire, et puis il s'est développé au fur et à mesure du tournage, et puis quand j'ai un moment, je disais, mais oui, c'est Tintin, je sais comment je vais, tout était clair pour moi. Je ne savais pas. Alors là, dans le documentaire, on ne sait pas ce qui va arriver, parce que je n'ai pas le droit de le mettre en scène. Donc, tout arrive au fur et à mesure. Et le rôle du documentariste, c'est d'être en mesure d'accepter l'autre, de rentrer dans sa bulle et de comprendre cette bulle. Et
mais Tourner pour vivre est allé au-delà de ce que vous imaginiez. Ce documentaire, ce road movie est allé ailleurs et au-delà.
Ça, c'est au spectateur de le dire. Je ne sais pas. Si, vu les résultats, j'avoue que on est tous les deux surpris et enthousiastes. Et puis... parce que les gens sortent de là en disant que le film fait du bien. Donc là, c'est la plus belle des récompenses. Moi, j'ai l'impression d'avoir... j'avais la prétention au début, je disais à Claude, j'ai un film en tête, c'est Le Mystère Picasso, Café Clouzot sur Picasso. Le film est un bijou et en même temps, il est chiant. Et j'aimerais bien arriver à faire un film qui parle de la même chose, mais qui soit un divertissement, qui ne soit pas un film chiant. Et c'est beau, je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce que Clouzot est un des plus grands cinéastes. Opposé au cinéma de Claude. C'est voilà un cinéaste qui voulait tout contrôler. Et voilà, après, j'ai l'impression qu'on a approché un peu ce... Voilà, mais c'est pas à moi de juger. Et j'ai surtout aussi l'impression d'avoir fait un divertissement plutôt qu'un film chiant ou de donner des leçons.
Ah, mais c'est un voyage absolument prodigieux.
Voilà. Mais j'avais la chance d'avoir comme vedette principale, puisqu'il y a plein d'autres gens autour de lui, entouré d'une pléiade de grands noms, de Tarantino à Dujardin et d'actrices extraordinaires. Mais ma vedette principale.
Voilà, Claude Lelouch.
J'ai Claire Lelouch, qui est un mélange d'Indiana Jones, de Tintin et tout ça. Donc c'est facile. Hein, c'est plus facile de faire un bon film quand vous. Casting is destiny, disait Lou Beach et Billy Wilder, exactement. Ben voilà, vous voyez, ma destinée est aussi d'avoir eu le talent de choisir une très bonne vedette dans le premier rôle.
Bon, on peut vous croire quand vous dites à la caméra de Philippe Azoulay, je pose la question à Claude, on peut vous croire quand vous lui dites finalement, tout au long de ma vie, je n'ai fait qu'un seul film.
C'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a un fil invisible qui relie tous les personnages de mes films. Il n'y a pas de super-héros dans mes films, il n'y a pas de super-salauds. Il y a des gens qui sont un peu moins dégueulasses que les autres. Ils ont les qualités de leurs défauts. Ils peuvent devenir héros pendant 2 secondes, 3 secondes, par accident, souvent.
On attend tous le prochain film de Claude, mais le film sur Claude, il sort mercredi en salle. C'est très simple, mercredi. Pour partir en voyage, eh bien, vous allez voir Tourner pour vivre, signé Philippe Azoulay. Merci à tous les deux. C'était formidable.
Merci.
Merci. À bientôt.
Merci. Continuez à être enthousiaste comme ça.
C'est grâce à vous.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.